Femmes en lutte, un combat mondial. Le Monde, en partenariat avec l'Agence française de développement, vous propose de découvrir un podcast en 5 épisodes dédié au féminisme. Partout dans le monde, tous les jours, des femmes et des hommes luttent. Luttent pour l'égalité, la liberté, le respect. Luttent pour scolariser les jeunes filles ou défendre leur intégrité physique. Luttent contre les violences domestiques ou pour permettre aux femmes de travailler. Ces luttes sont plurielles et le combat est mondial. Je suis Julie Gaillet et c'est ce que je me propose de vous raconter avec cette série.
Famille familiale de Valence, bonjour. Avancez un rendez-vous, c'est-à-dire... En fait, votre rendez-vous, il est avec une conseillère ?
Aujourd'hui, pour ce dernier épisode de notre série, nous restons en France, à Valence exactement, dans la Drôme, où Judith Chétrit s'est rendue dans les locaux du planning familial. Le planning familial, c'est un nom qui résonne comme un mythe. L'association, qui est un partenaire important de l'Agence française de développement, accompagne et encourage depuis sa création en 1960 tous les combats féministes et les luttes des femmes pour le droit à disposer de leur corps. C'est un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, à l'éducation à la sexualité, à l'avortement. Le planning familial est aussi engagé dans la lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de quelques-unes des femmes qui œuvrent dans cette antenne drômoise. À la rencontre aussi de femmes, souvent jeunes, qui franchissent la porte du local prêté par la mairie de Valence, dans un quartier résidentiel du centre-ville. Pour les jeunes filles qui viennent là, l'anonymat est garanti. Les patientes et les patients, car il y a aussi des garçons, qui témoignent dans ce podcast, ont souhaité rester anonymes. Les concernant, nous ne donnerons donc que des noms d'emprunt. Romane a 14 ans et demi, elle est venue pour se faire prescrire un anneau contraceptif. Elle est reçue par la sage-femme Marie-Claude Chausson.
On le porte 21 jours et pendant une semaine, j'en mets pas. Donc comme vous allez avoir des hormones pendant 21 jours, là vous allez avoir des saignements. Et peu importe si vos saignements sont arrêtés, pas arrêtés ou quoi, vous reprenez toujours le dimanche soir. Ça sera toujours le dimanche soir. Après, il y a une autre façon de faire. C'est qu'on peut le porter plus de 21 jours, on peut carrément le porter 28 jours, mais par contre, je n'oublie pas de le changer au bout de 28 jours, le dimanche soir. Et là, je le porte 28 jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, la personne, peut-être qu'elle ne va pas saigner du tout.
Oui.
L'important avec l'anneau et toute contraception hormonale, c'est pas de l'arrêter n'importe comment. Parce que quelquefois, quand on arrête sans être accompagné, c'est là qu'on risque une grossesse. Donc, vous allez allonger un peu plus votre bras, comme ça. Voilà. On va recommencer, parce que ça n'a pas pris.
Vous êtes venue ici, vous saviez que vous souhaitiez prendre l'anneau contraceptif ?
Oui, j'avais une intervention il y a 3 semaines. Donc j'avais été informée à ce moment-là.
Voilà.
Le préservatif et la pilule restent les deux moyens de contraception les plus connus et les plus utilisés. Plus d'une Française sur 3 utilise la pilule, par exemple. Mais le planning familial est justement là pour informer sur tous les moyens existants et pour en prescrire aux femmes et aux jeunes filles qui viennent là.
Ça n'a pas d'importance où on le met. Hein. Ce n'est pas une contraception locale. Ce n'est pas comme ce qu'on appelait le diaphragme ou des choses comme ça. Peu importe où il se trouve, mais assez profondément pour pas qu'il vous gêne. Et pour l'enlever, hop, on met un doigt et on va le sentir et on va l'accrocher avec le doigt comme ça.
D'accord.
Donc, si vous voulez, en plus, comme vous partez là, cet été, je vais vous donner ça. Le secret par rapport aux parents, c'est parce qu'ils ne savent pas que vous avez un copain ?
Si, mes parents savent, mais on est dans une religion où j'ai absolument pas le droit. Par contre, les parents de mon copain sont au courant, c'est sa mère qui m'a amené le dernier rendez-vous.
Il faut considérer que vous serez protégée 8 jours après avoir commencé.
D'accord.
Mmh. Allez, ben, on va aller là-bas.
J'ai juste une question. Est-ce que vous avez un petit truc pour les porter ou pas?
Parce que je pense que... je vais vous trouver quelque chose.
Merci beaucoup. c'est la deuxième fois que je suis venue ici. La première fois, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui m'a informé sur la contraception. Et lors de la deuxième visite, j'ai pu avoir un rendez-vous avec une sage-femme qui me prescrit une contraception. Et c'était très clair. Alors j'ai choisi l'anneau contraceptif parce que je ne peux pas en parler à ma famille. Donc c'était un moyen beaucoup plus simple, car je peux le garder 3 semaines. Ça m'a l'air plus simple et j'ai moins peur de l'oublier. La première fois que je suis venue, c'était parce que j'avais eu un rapport pas bien protégé et j'ai dû prendre la pilule le lendemain. J'ai été amenée par la mère de mon copain et aujourd'hui je suis venue seule. On commence à vraiment rentrer dans la sexualité, dans une vie d'adulte un petit peu, bon, même si on est pour beaucoup, je pense, des adolescents. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu un cap. Parfois, on peut tous avoir peur que les contraceptions ou les choses comme ça, ça puisse avoir des impacts plus tard sur notre fertilité ou quoi. Mais au planning, on explique bien et on se rend compte que si on se renseigne bien, on peut bien gérer notre corps et apprendre à le connaître. Par rapport à la peur d'être jugée, je sais qu'il y a encore des gens qui la ressentent, mais je pense qu'il y en a beaucoup moins parce que moi, par exemple, j'ai pas eu peur, malgré mon jeune âge, de dire que j'avais eu des relations sexuelles, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on fait quand on pense que c'est le bon moment pour nous et que personne peut savoir pour nous à quel moment on devrait en avoir. Voilà.
Peur, interrogation, doute. Le planning familial est à l'écoute de ces jeunes femmes. Elles peuvent venir consulter, poser des questions. Elles sont toutes reçues, quelle que soit leur situation et leur demande, sans jugement.
Il y a des lundis, c'est la folie.
Ouais, c'est ça.
Je vous fais visiter.
Donc, je suis Frédérique Claus, je suis secrétaire générale du planning familial de la Drôme. On est vraiment dans un quartier résidentiel. On est proche de différents lycées, donc ça c'est bien, mais on est dans un quartier assez calme. Donc nous, on est ouvert en journée continue. Le soir, on est ouvert jusqu'à 18h. Et on sait que de toute façon, les jeunes filles, le soir, elles vont rentrer chez elles. Tandis que l'heure du déjeuner, c'est vraiment stratégique. Le mardi, on a juste 3 heures d'ouverture. C'est sur l'heure du déjeuner de la cantine.
Chaque année, au planning familial de Valence, ce sont environ 1500 personnes qui viennent, aussi bien pour des entretiens médicaux que des conseils conjugaux. Le public prioritaire, ce sont les jeunes filles de moins de 20 ans, pour qui la contraception est fournie gratuitement.
Vous êtes son copain ? Est-ce que vous voulez que votre copain assiste au rendez-vous ?
Si vous voulez.
Non, c'est vous qui dites.
Ok,
c'est
vous. Bah,
ouais. Allez.
Ouais, si vous voulez bien fermer la porte. Assieds-vous.
Je suis Marie-Claude Chausson, j'ai bientôt 60 ans, je suis sage-femme et je travaille au planning familial depuis une douzaine d'années, je crois, ou en tout cas 10 ans au moins. Vous avez pris la pilule d'urgence le lendemain du rapport et cette pilule d'urgence, vous vous souvenez comment elle s'appelait ?
Ça s'appelait comment ? Je sais pas.
Bah en fait, on faisait pas trop attention, genre dès que j'arrivais, je vais passer le premier
juste la
direct.
Juste pour que je la prenne du lendemain direct. T'as pour regarder le nom ?
Norlevo, je sais que j'en ai pris une, ça c'est sûr. Mais après...
C'était la dernière, ça.
Ouais. Mais la première qu'on a pris, je sais pas du tout.
Ah oui, parce qu'en fait, vous en avez pris plusieurs fois.
Deux fois.
Deux fois.
La première fois, c'est parce qu'on a craqué la capote, on avait l'impression. Enfin, on avait peur. Quoi.
D'accord. Donc... Ah oui, vous l'avez fait le test ce matin. Donc là, il est bien négatif. Ok. C'est quoi votre choix au niveau contraception ?
Pilule normale.
Pilule ? Ok, d'accord. Et donc, vous ne l'avez jamais prise hein ?
Non.
Et tous les deux, avant d'être en couple, tous les deux, vous avez eu d'autres copines, d'autres copains d'autres...
Ouais.
Ouais, avec qui vous avez eu des rapports ?
Non.
Non ? Oui. Vous avez fait les tests un peu ?
Moi, j'ai fait tous les tests, je suis à jour.
Ouais, avant d'être avec elle. Ok, donc tout est négatif.
Oui.
Donc, a priori, vous n'avez pas de contre-indication pour prendre la pilule. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre la tension, là. Et puis, si tout est OK au niveau de la tension, on va pouvoir démarrer sur la pilule. Vous avez une idée de quand est-ce que vous voulez la commencer, la pilule ?
Moi, si je peux commencer tout de suite, je la commence.
C'est pas mal, parce qu'on est un lundi, c'est bien de commencer les lundis. Ça fait un bon repère sur les plaquettes. On est le 14 juin. Autour du 15 août, soit un petit peu avant, soit un petit peu après, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, vous faites cette prise de sang. Vous revenez nous voir. Et si tout est bien, on peut vous donner la pilule pour 6 mois. Les plaquettes, elles se présentent comme ça. voyez, vous allez prendre l'étiquette du lundi qui sera dans cette boîte. Vous allez la coller. Et ici, ça sera toujours les lundis. Ici, toujours des mardis. Donc, vous pourrez moins vous tromper. Vous pouvez la prendre sans eau. Et c'est bien d'apprendre à la prendre sans eau, de l'avaler comme ça, puisque ça vous permet, si vous avez besoin, de la reprendre dans la journée, n'importe où. De plus en plus, les femmes, spontanément, la prennent le matin. Et donc, nous, on conseille de plus en plus aussi de la prendre le matin. Pourquoi ? Parce que si on la prend le soir, après on dort et on s'en rend compte le lendemain soir. Et on a dépassé les 12 heures et il faut faire le protocole et tout ça. Est-ce que vous sentiriez de la prendre maintenant, là, avec moi ? Ouais. Est-ce que vous voulez de l'eau pour la prendre ?
On peut aller prendre vers à 11 heures, quoi.
Ben, 11 heures, bah, alors on y est. Ouais. Super. Voilà. On peut la prendre maintenant, alors.
Voilà. Merci beaucoup, madame.
Ben, de rien.
Merci beaucoup.
Au revoir.
L'autre point qui fait la renommée du planning familial est son engagement pour la défense de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Et là, ce sont des femmes de tous âges qui viennent consulter.
Nous, nous réalisons que les IVG médicamenteuses et certaines patientes ne sont pas prêtes pour avoir recours à l'IVG médicamenteuse. Il n'y a pas de bonne méthode, mais l'important, c'est que la méthode soit celle que la patiente choisit vraiment... éclairé. D'avoir travaillé au planning familial en tant que sage-femme m'a donné une ouverture d'esprit vraiment très importante.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent encore ?
En fait, ce qui m'étonne le plus après toutes ces années pratiques, c'est tout ce qui concerne les idées préconçues, soit des professionnels, soit de la population. Et quelquefois aussi des mauvais conseils au niveau contraceptif de la part des professionnels. On peut prendre l'exemple d'une femme à qui on enlève un stérilet au cuivre, à qui on pose un implant contraceptif et à qui on ne dit pas qu'il faut se protéger les 8 premiers jours. Et qui du coup vient au planning familial avec une demande d'IVG très contrariée puisqu'on ne lui avait pas dit. Et effectivement, la conception datait au moment de ce changement de contraception.
Dalila entre dans le bureau de Marie-Claude Chausson avec son fils de 10 mois. Elle a appelé le matin même pour parler d'une éventuelle IVG.
Vous avez un dossier, vous êtes déjà venu a priori.
Oui.
Mais je ne crois pas que l'on soit vu.
Non, ça fait longtemps, c'est en 2018.
Donc ça vous fait 26 ans. Donc vous avez deux enfants.
C'est pas un traumatisme, mais je l'ai mal vécu. J'ai très mal vécu l'accouchement.
À cause de l'hémorragie.
J'ai eu peur, parce que la première fois, j'ai eu l'hémorragie, mais je ne comprenais pas ce qui se passait, on ne connaît pas. La deuxième fois, quand j'ai vu que... Ils ont sorti mon mari, mon fils, il y a 10 médecins qui sont venus. Moi, mon corps, il tremblait, je ne pouvais plus. Après, j'ai perdu beaucoup de cheveux, je perdais beaucoup de poids. En plus de ça, j'allaitais mon petit, j'avais personne pour m'aider. J'étais vraiment à bout.
Oui, oui. Et vous avez fait des fausses couches déjà ?
Non, jamais.
Vous avez déjà eu des IVG ?
Oui. La première fois que j'ai fait une IVG, c'était à l'hôpital, c'était pas ici. Parce qu'ici, j'ai fait la deuxième fois, ça s'est bien passé. J'étais tombée dans les pommes. Alors, je ne sais pas s'il faut vous le dire ou pas, mais l'hôpital, ils le savent. En fait, ce n'est pas que je ne veux pas du troisième. Parce que je sais que plus tard, je sais que je m'arrêterai à trois. Parce que je me dis, j'ai envie de la fille. Mais bon, on ne sait pas. Mais là, je ne peux pas. Je suis surchargée. J'ai repris le travail et je travaille avec mon petit. Je n'ai pas de possibilité de garde en plus de ça. Je suis en télétravail. Je continue à galérer. Je ne peux pas me permettre d'avoir un troisième. Même mon mari, il sait que ce n'est pas le bon moment. En fait, on est raisonnable. On se dit que ce n'est pas le bon moment d'avoir un troisième. J'ai eu mon premier, ensuite je suis retombée enceinte, ça allait pas bien. On a eu des décès, donc je ne me voyais pas avec un deuxième. Donc j'ai fait une IVG, et ensuite j'ai eu mon deuxième. Et là je suis retombée enceinte pour un oubli. J'ai ma plaquette que je prends, c'est Lilou. Et là comme par hasard, je n'ai pas pris pendant 5-6 jours. Je suis tombée enceinte.
Votre idée là, c'était de faire une IVG mais médicamenteuse.
Ouais.
Et à domicile.
Comme j'avais fait la dernière fois.
Je ne suis pas contre,
d'accord.
Mais il faut que ce soit le médecin qui décide.
D'accord.
Parce que là, comme entre-temps, vous avez eu ce deuxième accouchement hémorragique,
il
faut quand même voir s'il sera d'accord ou pas.
Bon, on verra. De toute façon, j'ai le droit de dire non.
Oh, ben, bien sûr, d'accord. Jusqu'au bout. Je vous note à rendez-vous mercredi. Ouais. Vous faites le point avec lui.
Mercredi, c'est parfait, madame.
Attendez, je vais vous...
Merci beaucoup.
Annick Lemarchand a été conseillère conjugale et familiale au planning. Elle a pris sa retraite, mais elle continue à venir plusieurs demi-journées par semaine en tant que bénévole.
J'ai rendez-vous à 14h.
Oui, votre prénom?
Sûrement c'est
DVG. Oui, ok. Je vous fais passer en plein salle d'attente.
Le rendez-vous de vendredi pour que Sophie a fait. Vous pouvez vous asseoir.
Je viens de recevoir une jeune fille qui a 15 ans, qui est d'un département voisin, qui s'étant rendu compte qu'elle était enceinte, est allée directement à l'hôpital. On lui a annoncé qu'elle était enceinte d'à peu près 7 semaines. Quand je lui ai posé la question de savoir où elle en était de sa contraception, elle m'a donc expliqué qu'elle utilisait une application pour gérer sa contraception. Et en fait, elle s'est vite rendue compte que non, les applications, c'est pas fiable du tout, c'est n'importe quoi. Elles mettent la date de leurs règles et on leur dit, vous allez avoir votre ovulation telle date. Sauf que ça, c'est une information qui est complètement erronée. Et puis à 15 ans, en plus, on n'a pas des règles très régulières. L'ovulation, elle peut être perturbée par le fait qu'on a eu des changements de rythme, des changements de vie. Donc cette jeune fille était accompagnée de sa copine, qui elle était majeure, et qui va l'accompagner comme étant la personne référente. Puisque chez une jeune fille mineure, il est obligatoire non seulement d'avoir un entretien psychosocial, donc ce que j'ai fait avec elle, et il est obligatoire pour l'IVG, le jour de l'IVG, d'être accompagnée par une personne majeure. Je demande toujours si la relation sexuelle était consentie. Quelquefois, ça peut être le départ d'une histoire bien différente de ce qu'elle nous raconte. Mais là, c'était une relation consentie. Le copain l'a quand même attendu à l'extérieur. Elle était un petit peu inquiète parce qu'elle avait demandé une IVG par médicament, mais elle ne savait pas du tout comment ça se passait. Mais c'est bien de les prévenir qu'éventuellement, voilà, il peut y avoir des douleurs, surtout à 15 ans. Mais elle sera à l'hôpital, il y aura une infirmière. Ce qu'on peut leur proposer, et ce qu'on doit leur proposer, c'est un entretien après l'IVG. Quelquefois, il y a des personnes qui ont des choses à dire autour de ça. Mais c'est proposé, jamais obligatoire. Je pense que ça fait partie de moi, quoi. Je ne peux pas bien faire autrement. Conseillère conjugale, c'est souvent un deuxième métier. Moi, j'ai baigné dedans quand j'étais au lycée déjà. J'avais la maman d'un copain qui était militante au planning et au MLAC.
Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception dans les années 70.
Voilà, c'est ça. J'ai jamais été loin de tout ça, en fait. Hein. Je sais pas, moi, je parlais de contraception aux mamans de mes copines. J'ai participé à des colloques sur la santé sexuelle. J'étais très jeune. Hein. La maman de ce copain, elle nous faisait venir chez elle les jeudis et on parlait de sexualité, de contraception. On était plusieurs, hein, filles et garçons. Et j'ai un peu l'impression aujourd'hui d'avoir rendu ce qu'on m'avait donné. C'est pas par hasard qu'on vient travailler ici. Hein.
Sophie Feigna est conseillère conjugale et familiale. Elle raconte en quoi la crise sanitaire de l'année écoulée a impacté l'activité au planning familial de Valence.
Lors du premier confinement au mois de mars, là, quand l'annonce a été faite, dans les deux semaines qui ont suivi, on a eu énormément d'appels et d'appels au numéro vert. Elles étaient très inquiètes, les femmes, effectivement. Est-ce qu'elles pourront quand même avorter ? Oui, ça a été maintenu, et heureusement, heureusement. Après, c'était compliqué pour l'accès à la contraception pour les jeunes filles qui viennent dans le secret de leurs parents. Là, il fallait s'arranger avec les pharmacies, trouver une pharmacie où la jeune fille pouvait se rendre à moins de 1 km de chez elle et qui accepte de lui délivrer une contraception sur une ordonnance qu'on faxait à la pharmacie. Après, l'effet qu'on a eu quand même dans la fréquentation de notre centre suite aux différents confinements, ça a été une baisse de fréquentation de la part des lycéens parce qu'ils n'étaient pas en présentiel à temps plein. Et du coup, ils avaient moins la possibilité de venir dans les centres puisqu'ils ne viennent pas au lycée qui est à côté du planning.
Les confinements successifs ont donc été synonymes de déficit d'information. Or, même si l'éducation à la sexualité est inscrite dans le code de l'éducation depuis 2001, les jeunes, filles ou garçons, manquent souvent d'informations. Pour Frédéric Claus, la secrétaire générale du planning familial de la Drôme, cette mission d'information auprès des jeunes est cruciale.
c'est quand même vraiment important que les jeunes, puisqu'on parle des jeunes, aient une information de la part de professionnels, parce qu'actuellement, ils se renseignent quand même énormément sur Internet. Et il nous semble que c'est quand même important que les jeunes se renseignent autrement que via les réseaux sociaux, via Internet, même voir des sites pornographiques accessibles aux jeunes, même aux mineurs, gratuitement. Voilà. Les plannings familiaux qui sont centres de planification, c'est-à-dire qui ont des consultations médicales comme chez nous, sont financés en grande partie par les départements. L'éducation est importante auprès des jeunes, aussi auprès des parents, pourquoi pas. Les adultes aussi pourraient avoir des informations, mais ça c'est dans un monde idéal. Et puis oui, avoir accès à des établissements scolaires, notamment privés. Nous ici, on a un lycée privé qui n'est pas très loin. On reçoit quand même quelques jeunes qui sont enceintes et qui ne le souhaitaient pas. Et par contre, on n'arrive pas à faire des animations dans ces établissements.
Sophie Feigna intervient dans les établissements scolaires pour informer filles et garçons sur leur sexualité.
On se déplace dans les écoles, dans les collèges, les lycées, dans les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Il y a des questions qui, pour nous, sont simples, comme c'est quand on donne de l'information. Pour faire participer ces élèves, voilà, ils écrivent des questions sur les post-it. Par exemple, je l'ai pratiquement chaque année, donc des jeunes filles qui écrivent « Madame, est-ce qu'on est obligé de faire les préliminaires ?» Ça, c'est une question qui m'a surprise il y a quelques années, parce que les préliminaires, dans notre présentation, ben, c'est plutôt quelque chose d'agréable. C'est un préambule à éventuellement ensuite faire l'amour, avoir un rapport sexuel. Mais dans le vocabulaire de ces jeunes, préliminaire, en fait, ça peut signifier, par exemple, faire une fellation. Donc, c'est l'occasion de leur expliquer, voilà, c'est quoi un acte sexuel, qu'est-ce qui n'est pas un acte sexuel, qu'est-ce qu'on entend en fait par préliminaire, et que c'est normal que si pour elles, les préliminaires, c'est faire une fellation, qu'elles n'aient pas forcément envie à 14 ans d'en faire. Très, très souvent, c'est plutôt un petit peu tendu au départ, voire des élèves qui expriment carrément qu'ils ne veulent pas participer. Ça reste un peu tabou. Il y a beaucoup de peur et de gêne aussi. Donc c'est à nous, effectivement, d'installer suffisamment de confiance pour qu'ils puissent se sentir à l'aise. Et après, en général, on a du mal à terminer. Alors, quand la parole est libérée, alors là, on ne s'arrête plus. On a des collègues à Nyons qui interviennent dans des écoles primaires. Alors là, on ne va pas parler d'éducation à la sexualité, mais on fait des séances d'éducation à la vie affective. On va parler des émotions, du corps, les préparer à la puberté, de la notion de respect de l'autre, des stéréotypes de genre aussi. On parle plutôt à ce moment-là d'éduquer à des compétences psychosociales. La loi, normalement, dit que chaque établissement scolaire devrait proposer 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an. Dans la réalité, quand un élève dans sa scolarité il en a fait une, on est déjà content. Parfois, ils en font 2... 3 dans toute leur scolarité. Mais oui, je veux préciser. Beaucoup d'hommes et de femmes pensent qu'avec tous les moyens de contraception qui existent, c'est pas normal que des femmes aient encore besoin d'avorter. Sauf qu'il n'y en a aucun qui soit fiable à 100%. Un centre de planification, on peut venir avoir une contraception gratuitement, avoir un suivi médical gratuitement. Tout est gratuit et confidentiel jusqu'à 20 ans.
VIH, chlamydia, syphilis, hépatite. Ce sont également des mots que l'on peut entendre au planning familial. Car un autre axe important de son activité, c'est son engagement dans la lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. On peut donc venir ici pour se faire tester. Comme Mathis, lycéen, qui est venu faire un dépistage avant une première relation sexuelle avec sa petite copine.
Je vais prendre votre papier pour aller chercher vos résultats. Merci. Je reviens. Donc là, c'est un dépistage que vous avez fait la semaine dernière. Le VIH est ici, donc le sida est bien négatif. L'hépatite B aussi, c'est bien négatif. Et vous n'êtes pas vacciné. C'est un vaccin qui est facultatif. L'hépatite C, c'est pareil, c'est bien négatif. La syphilis également. Et pareil, sur le prélèvement urinaire, tout est négatif. Il y avait une prise de risque particulière. Non, c'était pour vous rassurer. Vous voilà rassurée, hein, maintenant.
Merci.
Est-ce que vous voulez des préservatifs ?
Non, merci, c'est bon. Merci beaucoup.
Ben, on vous laisse repartir.
Merci.
Est-ce que le planning familial a encore besoin d'être connu aujourd'hui en France ?
Je pense que le planning familial a une grosse connotation IVG. C'est un peu dommage parce que nous faisons quand même beaucoup de prévention. Vraiment, nous aimerions bien avoir cette étiquette d'association de prévention aussi sur les maladies sexuellement transmissibles, sur les grossesses non désirées, sur les violences, sur les questions d'homophobie, sur les questions de genre. On est quand même très connoté IVG.
Qu'est-ce qu'elle induit, cette connotation que vous regrettez en partie ?
Elle induit une certaine réticence de la part des personnes qui trouvent que les femmes sont un peu légères sur leur contraception et font peut-être un peu trop d'IVG et qu'elles pourraient quand même faire attention. Et ça, c'est quand même très désagréable. Comme si nous étions là pour pallier des erreurs des femmes.
On le comprend à l'écoute de ce reportage, le chemin est encore long avant d'arriver à une parfaite information. Mais aussi à un accès facilité aux soins, à la contraception et à l'IVG. En octobre 2020, une proposition de loi visait à allonger le délai légal pour avorter. L'idée était de passer de 12 à 14 semaines. 4 mois plus tard, cette proposition de loi devait être examinée en seconde lecture à l'Assemblée nationale, mais elle a été retirée de l'ordre du jour en raison d'un trop grand nombre d'amendements déposés. Comme le disait la députée Alban Gaillot, l'autrice de cette proposition de loi, lors de l'examen en première lecture, « Rien n'est plus fragile que les droits des femmes. » Mais le planning familial est un des acteurs de terrain qui continue de se battre pour le respect de ces droits. Nathalie Bajos est sociologue, démographe, directrice de recherche à l'INSERM et co-responsable de l'enquête nationale sur les sexualités et la santé sexuelle. Elle décrypte, avec Josefa Lopez, les problématiques liées à la sexualité des jeunes, filles ou garçons.
Nathalie Bajos, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre un reportage enregistré au planning familial de la Drôme par Judith Chétrit. Au planning, tout est gratuit et confidentiel. C'est la base pour permettre aux jeunes filles de venir se confier, de venir se présenter devant une institution comme ça.
Alors, je ne sais pas si c'est la base, mais en tout cas, ça me paraît des caractéristiques effectivement essentielles, cette gratuité, cette confidentialité. Mais pour autant, je rajouterais volontiers un point majeur, c'est d'avoir une écoute non normative. Et je crois que c'est un point absolument essentiel pour que les jeunes filles, mais aussi les jeunes garçons, et puis les moins jeunes aussi, puisque l'activité du planning familial concerne toutes les générations, même si les jeunes sont en première ligne, je dirais. Mais c'est vraiment l'idée de pouvoir accueillir, échanger, entendre la vie affective et sexuelle des personnes sans imposer de cadre normatif, et ça me paraît extrêmement important.
Le planning propose à la fois des entretiens médicaux et des conseils conjugaux. Finalement, la sexualité est présentée comme un tout là-bas.
Alors, effectivement, la sexualité est un tout. Alors, quand vous parlez d'entretiens médicaux et de conseils conjugaux, ça m'évoque tout de suite deux points sur lesquels j'aimerais bien insister. Le premier, c'est l'entretien médical. En fait, tout ce qui concerne la vie affective et sexuelle, bien sûr, il y a des enjeux qui relèvent de la santé. Mais avant d'être une question médicale, c'est avant tout une question sociale, profondément sociale. La sexualité est bien évidemment personnelle. Et je pense que les femmes et les hommes qui viennent consulter ne sont pas des patients. D'ailleurs, pas plus les femmes qui vont consulter pour une contraception ou les hommes qui vont consulter pour une contraception ne sont pas malades. Les femmes, en l'occurrence, qui vont consulter pour une demande d'interruption volontaire de grossesse ne sont pas malades. Et si je me permets d'insister sur cette terminologie d'entretiens médicaux, c'est que, bon, c'est pas récent, hein, mais c'est un peu pour mettre le holà sur tout ce mouvement de médicalisation de la sexualité et des risques qui peuvent y être associés. La sexualité, c'est un tout. Effectivement, ce sont des représentations, ce sont des pratiques, ce sont des relations qui se situent dans un contexte donné et que l'activité du planning familial, effectivement, permet d'entendre et d'accueillir des personnes et de discuter et de proposer des conseils médicaux. Et plus que de conseils, d'ailleurs, c'est plutôt de fournir des informations pour permettre aux personnes concernées de choisir en connaissance de cause, ben, pour certains, certaines, quelle sera la contraception la plus adaptée à un moment de leur vie avec tel type de partenaire. Pour d'autres, ça renverra aux questions de contraception, d'autres de prévention des infections sexuellement transmissibles, pour d'autres des questions de consentement, de violence. Donc les sujets sont très diversifiés, mais on n'a pas affaire à des malades. Donc plutôt que d'entretiens médicaux, plutôt des entretiens de professionnels de la santé, ça me paraît plus adapté. Et le qualificatif de conseils conjugaux. Alors c'est pareil, là j'ai envie de dire que c'est évidemment pas l'intention du planning, mais même le titre même de planning familial peut être interrogé. Et je le dis avec énormément de respect pour ce que fait cette association et ce que font tous ces centres dans l'ensemble du territoire, c'est que la conjugalité et le côté familial, la sexualité, elle est, et plus encore aujourd'hui qu'avant, vraiment très différente selon les contextes relationnels. Et ça a un côté un peu... Voilà, la sexualité, c'est pas du tout forcément connecté à des enjeux ni familiaux ni conjugaux. Et c'est un peu ce que je disais au début, l'enjeu c'est vraiment d'avoir une vision non normative. Toutes les formes de sexualité, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles s'effectuent, qu'elles se déroulent dans le respect du désir et du consentement des personnes impliquées, ça fait partie de la sexualité des gens. Donc je trouve que le caractère conseil conjugal est très restrictif et que c'est sûrement pas une terminologie qui renvoie à la façon dont les gens, les jeunes en particulier, pensent les questions, les enjeux de sexualité.
Alors justement, vous avez analysé cette sexualité des jeunes en France. Et quel est aujourd'hui le rapport à la sexualité des jeunes filles et des jeunes femmes ?
C'est une question difficile, mais je vais y répondre. D'abord parce qu'on a des données scientifiques qui sont... Pour ce qui concerne en tout cas les grandes enquêtes assez datées, puisque la dernière date de 2006, bon, il y a eu une enquête de Santé publique France qui comportait quelques données précises, rigoureuses, en 2016. Mais sinon, c'est vrai qu'en tant que scientifique, moi, je ne m'appuie pas sur les sondages qui sont publiés toutes les semaines sur le sujet, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas une source de réflexion scientifique pour moi, même si on peut avoir un regard scientifique sur toute cette production médiatique autour de X% des gens font ci, font ça. Donc les dernières données quantitatives rigoureuses, il va falloir attendre encore quelques mois la nouvelle enquête qu'on est en train de lancer. Par ailleurs, il y a quand même un certain nombre d'enquêtes qu'on dit qualitatives par entretien qui ont été faites, et notamment par mes collègues de l'INJEP. Et ce que j'aurais envie de dire, c'est que les choses changent, mais pas tant que ça. La sexualité, je le disais tout à l'heure, elle s'inscrit dans un contexte social, politique, économique, juridique particulier. Donc le contexte a beaucoup évolué au cours de ces dernières décennies en France. Et si on veut citer les grands événements marquants, je dirais, pour comprendre comment la sexualité a pu changer, bah, il y a d'abord la crise économique de 2008 quand même et toutes les conséquences qu'elle a pu avoir. La sexualité n'est pas du tout déconnectée de ce qui se passe dans la sphère économique dans une société donnée. On a eu aussi comme grand événement la question de la révolution numérique, hein, entre le rapport au numérique sur lequel peut-être on pourra revenir,
oui,
parce que c'est un enjeu important. On a eu aussi une prolongation des luttes pour les droits des minorités sexuelles et des minorités de genre qui ont aussi modifié le paysage. Il y a eu tout le mouvement MeToo Petite parenthèse qui n'est pas si nouveau que ça, c'est au sens où il n'a pas fallu attendre MeToo pour que la parole se libère. La parole, elle se libère depuis des décennies. Ça a renforcé et peut-être que ça a modifié plus que la question de libérer la parole, d'entendre la parole des uns et des autres. Donc, c'est toute la question du consentement qui est sans doute en train de se redéfinir également. Donc, je dirais que d'un côté, il y a beaucoup d'éléments pour penser que les choses ont changé. De l'autre, la sexualité, pour nous, sociologues, étant en fait le reflet de ce qui se passe, des rapports de domination qui existent dans la société, même s'ils évoluent, hein, mais c'est toujours marqué par une inégalité de genre très marquée dans les différentes sphères sociales, et donc y compris dans la sexualité. Donc j'ai envie de dire...
Ça veut dire quoi exactement ?
Alors pour être plus précise, ça veut dire que ce qu'on observe dans la sexualité, c'est toujours un double scénario sur ce qui renvoie à la sexualité masculine et ce qui renvoie à la sexualité féminine. On est encore loin, même si les choses ont un peu avancé, d'être dans un contexte social où on peut penser l'égalité entre les sexualités et l'égalité entre les sexes.
Garçons et filles ne pensent pas la même chose, n'attendent pas les mêmes
choses.
On
ne pense pas la même chose, on n'est toujours pas socialisé à penser la même chose en matière de différence femmes-hommes en général et dans le domaine de la sexualité en particulier. Et il n'y a toujours pas d'égalité entre les sexualités. On continue à vivre dans une société où l'hétérosexualité reste la norme dominante et les autres formes de sexualité étant des sexualités, encore pour un certain nombre de personnes, des sexualités déviantes. Donc, je développe un petit peu, mais ça me paraît important pour dire que voilà, c'est pas parce que le numérique est arrivé, c'est pas parce qu'il y a eu MeToo, c'est pas parce que le mouvement de revendication d'une fluidité de l'identité de genre est apparu, c'est pas parce que la revendication d'une non-binarité s'affiche de plus en plus que tout a été révolutionné. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a quand même un fondement d'une sexualité qui reste marquée par des rapports de domination, des rapports de domination masculine en particulier, et des rapports de domination de l'hétérosexualité sur les autres formes de sexualité. Donc, oui, il y a des choses qui évoluent. On n'est pas figé dans le temps, bien sûr, mais les grandes forces sociales qui structurent le rapport à la sexualité sont quand même toujours très présentes autour de la domination masculine et la domination de l'hétéronormativité.
Alors, au planning familial, on vient consulter souvent pour parler contraception. Et on entend parfois dire, c'est ce que souligne la directrice du planning familial, que les jeunes filles qui, par exemple, pratiquent un IVG sont souvent pointées du doigt car on leur reproche de ne pas avoir pris une contraception qu'elles ont finalement à leur disposition. C'est pas aussi simple que ça.
Non, c'est pas aussi simple que ça, mais en même temps, ça pointe sur un sujet qui quand même reste malheureusement d'actualité, qui est celle d'une certaine forme de culpabilisation qui reste autour de la question de l'IVG et de la responsabilité des femmes en matière de contraception. En gros, on vit dans un pays où les contraceptions efficaces, dites modernes, sont accessibles et remboursées. Bah, si vous vous retrouvez en situation d'IVG, c'est quelque part que vous avez raté. Vous avez failli à un moment ou à un autre. Alors moi, je dirais que les choses évoluent quand même dans ce regard très culpabilisant autour de l'IVG, mais il n'en demeure pas moins que on a encore cette espèce de noyau dur. On ne peut toujours pas considérer l'IVG comme un droit comme les autres, et j'en veux pour preuve, et ça ne concerne pas que les jeunes d'ailleurs, j'en veux pour preuve tous les débats qu'on a vus récemment autour de la double clause de conscience, où cette double clause de conscience, je le rappelle pour les auditeurs et les auditrices, c'est que quand la loi a été votée sur l'IVG, il y a dans le Code de la santé publique, il existe une clause de conscience générale qui dit que un médecin, sans faux en cas d'urgence vitale, n'est pas obligé de soigner quelqu'un si c'est contraire à ses opinions philosophiques, religieuses, mais qui doit adresser la personne à une consœur ou à un confrère. Et au moment où la loi de compromis sur l'avortement a été votée en 1975, on a rajouté une clause de conscience spécifique pour deux choses, d'ailleurs c'est intéressant, c'est l'IVG et la stérilisation féminine. C'est comme par hasard deux événements qui renvoient au contrôle des femmes de leur fertilité et donc de leur sexualité également. Et donc, cette double clause de conscience qui date de 1975, elle n'a absolument plus lieu d'être aujourd'hui. Ça n'empêche pas les médecins qui ne veulent pas pratiquer l'IVG, peuvent invoquer la clause de conscience générale et ne pas le pratiquer. Mais c'est vraiment marqué cet acte particulier de l'IVG, d'un sceau particulier. C'est une clause particulière de conscience qu'on ne veut pas enlever par rapport à cet acte. Et en fait, on pourrait dire, ben et alors ça change rien de toute façon. Si, parce que c'est une façon de considérer que c'est toujours pas un acte comme un autre, alors que ça fait partie de plus de 30% des femmes qui ont une sexualité hétérosexuelle, c'est-à-dire la majorité des femmes, seront un jour ou l'autre amenées à avoir recours à une IVG. Donc c'est un événement, je dirais, classique de la vie reproductive, mais qui n'est toujours pas vu comme tel. Et les propos de la directrice du planning révèlent que voilà, on continue encore à montrer dans certains cas du doigt des femmes qui se trouvent dans cette situation. Et on ne ferait pas de même pour un homme qui oublie son traitement hypertenseur ou de prendre ses statines. On ne serait pas là en train de le culpabiliser parce qu'il a oublié. Mais entre
tout 15 ans... qu'on n'est pas seul à faire un enfant, pour faire un enfant. On est d'accord.
On est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que entre l'âge de 15 ans et 50 ans, l'âge de la ménopause, ben voilà, faire un parcours sans faute de 35 ans, on a plusieurs milliers en moyenne de rapports sexuels pendant cette période qui est capable de faire un parcours, voilà, sans faute. Donc, et on le voit avec ce qui se passe en ce moment dans certains pays, comme je pense en particulier à la Pologne, à la Hongrie. On reprend toujours cette phrase de Simone de Beauvoir, rappelez-vous que les droits des femmes sont jamais acquis et qu'en période de crise, etc. Mais c'est vrai, on le voit encore aujourd'hui et qu'on n'est pas encore capable aujourd'hui en France d'inscrire ce droit comme un droit comme les autres. Et du coup, ce qui est intéressant, enfin ce qui est important, c'est que les femmes, certaines femmes, on le voit dans nos travaux, continuent à vivre très mal cet acte parce qu'elles se sentent coupables d'avoir failli, de ne pas avoir respecté la norme contraceptive qu'on leur a bien inculquée dès l'école.
Alors une des missions du planning familial, c'est d'apporter aussi de l'information. Est-ce que vous constatez un déficit de connaissances en matière de sexualité chez les jeunes ? Pourtant, l'éducation à la sexualité est inscrite dans le code de l'éducation de la loi depuis 2001. Et pourtant, sur certains sujets, on a l'impression qu'on découvre.
Vaste sujet que celui de l'éducation à la sexualité, parce qu'effectivement, c'est obligatoire, cette éducation à la sexualité. Donc le problème, ce n'est pas son caractère obligatoire ou pas, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effectivité de cette disposition législative, parce que faire des cours d'éducation à la sexualité, ça ne veut rien dire tant qu'on ne dit pas qu'est-ce qui est enseigné et par qui. Et le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes avait rendu en 2015, je crois, ou 2013, peu importe, un rapport sur l'éducation à la sexualité dans lequel il y avait une évaluation de cette éducation à la sexualité et on avait montré à quel point cette éducation était normative et stigmatisante, voire même homophobe. Et les choses ont changé depuis. Et c'était une présentation très biologisante et psychanalysante de la sexualité. Donc je ne dis pas du tout qu'il ne doit pas y avoir des dimensions, une lecture de psychologue ou de psychanalyste n'est pas intéressante, mais pour parler à des jeunes de sexualité, je dis encore une fois, l'enjeu c'est d'avoir un discours absolument pas normatif et cette éducation-là, elle doit être faite par des personnes formées. Et n'importe qui vient, enfin pas n'importe qui, évidemment les responsables scolaires ne laissent pas rentrer n'importe qui dans les lycées, mais il y a tout un tas d'associations qui peuvent intervenir et qui véhiculent des discours qui peuvent faire, moi j'ai envie de dire, plus de mal que de bien aux élèves qui entendent ça. Alors, une des grandes caractéristiques quand même sur l'information sur la sexualité, vous me demandez est-ce qu'il y a des problèmes d'information, des déficits d'information ? Oui et non, oui, il y aura toujours des déficits d'information, mais un des grands avantages quand même d'Internet, c'est que certes, on peut trouver le meilleur et le pire. Et en particulier, si vous tapez IVG, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui même, il n'y a pas si longtemps.
Le premier lien,
c'est un site anti-IVG. Mais je dirais que, et c'est peut-être une particularité de ces toutes dernières années, c'est qu'il y a eu une explosion de sites tenus par des personnes qui revendiquent d'autres formes de sexualité, d'être non-binaire, d'être etc., etc. Et que les jeunes ont un tel choix aujourd'hui qu'ils peuvent quand même trouver énormément d'informations de la part d'acteurs très diversifiés et reconnaître dans toutes ces propositions qui leur sont faites des types de discours qui correspondent à ce qu'ils vivent. Donc cette grande diversification des discours sur Internet est une très bonne chose. Après, j'ai envie de dire que pour la sexualité comme pour tout, il y a un vrai travail, non pas d'éducation à la sexualité, mais d'éducation à la recherche sur Internet. On s'affole souvent, on voit souvent que le mauvais côté d'Internet, mais pour l'information, c'est aussi un point extrêmement positif. Et puis pour le reste, aller voir des films, parce qu'il y a évidemment la question de la pornographie qui revient systématiquement sur le devant de la scène, que des jeunes puissent découvrir à quoi ça ressemble un sexe d'homme, un sexe de femme. Ben avant, c'était dans les journaux, maintenant c'est sur Internet. Donc je ne suis pas en train de dire qu'Internet, c'est formidable. Je dis qu'il y a une éducation à avoir à la consommation d'Internet. Mais en tout cas, ça a un avantage qui me paraît très important. C'est une ouverture sur différents discours sur différentes sexualités et qui permet à des jeunes qui sont de plus en plus en recherche d'acceptation de la diversité de se retrouver dans ces discours qui sont proposés. Pour autant, on peut difficilement parler d'Internet sur l'éducation à la sexualité sans aussi avoir un regard critique sur tout ce qui s'y passe en termes de violence, en termes de harcèlement, etc., etc. Donc, Internet, c'est un sujet en soi et on ne peut pas dire que c'est un danger ou quelque chose de formidable. Il y a des aspects très positifs et des aspects très négatifs et qui nécessitent vraiment une éducation vis-à-vis d'Internet, quoi.
Alors justement, vous le disiez, une femme sur cinq a un jour subi des violences sexuelles. Vous parliez de violences. Le consentement est au cœur d'une campagne de Santé publique France. Comment les jeunes prennent-ils en compte aujourd'hui leurs désirs et les limites qui s'imposent à eux ?
Alors, une femme sur cinq a subi des violences, c'est encore beaucoup plus que ça, parce que là, le chiffre que vous citez, c'est les derniers chiffres qu'on a publiés sur des rapports sexuels imposés ou des tentatives de rapports sexuels imposés. Donc là, on parle de viol, on parle de crime. Il y a aussi tous les attouchements et il y a aussi toutes les inconduites sexuelles et qui touchent beaucoup plus souvent les femmes que les hommes, même si les hommes sont aussi concernés. Mais en tout cas, dans une moindre mesure, de toute façon, c'est dans plus de 95% des cas un homme qui est à l'origine de ce harcèlement ou de cette violence sexuelle. Donc c'est un phénomène extrêmement important dont les dernières enquêtes qu'on a pu faire sur le sujet montrent qu'en fait c'est plus qu'on en parle plus aujourd'hui, on le dit plus facilement dans une enquête qu'une augmentation réelle du phénomène. Mais peu importe, c'est quelque chose d'absolument massif, y compris chez les plus jeunes. Et donc cette question du consentement, évidemment, elle est au cœur, mais ça suffit en aucun cas. Parce que ce qui me paraît très important, c'est deux choses. C'est le consentement, c'est pas juste dire il faut dire oui, il faut dire non. C'est aussi quelque chose qui s'apprend et qui s'anticipe. C'est-à-dire que ça doit vraiment faire partie de l'éducation à la sexualité, de réfléchir à ce que ça veut dire d'avoir envie, de pas avoir envie, d'avoir envie au début puis de plus avoir envie après. Que ce soit la question de tenir compte de ses propres désirs et envies, mais aussi de celle de son partenaire et réciproquement. Enfin, les filles, mais les garçons, c'est pareil. Je veux dire, c'est vraiment, je crois que quand on parle de toutes ces questions-là, il faut impérativement penser les personnes. Bien sûr que le sexe biologique assigné à la naissance compte, parce que voilà, on voit bien que les choses se distribuent pas du tout de la même manière, qu'il y a des effets de genre très marqués. Mais pour autant, voilà, le consentement, c'est quelque chose qui doit vraiment s'apprendre. On doit prendre le temps de réfléchir, de savoir comment l'anticiper, comment, etc., etc., le consentement verbal, non-verbal, physique, etc. Et donc, filles et garçons doivent être vraiment, et femmes et hommes, hein, mais bon, c'est vrai que si on commence tôt, ça évitera des générations, des comportements très insupportables dans les générations plus adultes. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas juste, vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non, c'est pas juste ça. C'est comment on le dit, comment on le repère, comment ça se passe sur Internet, etc., etc., etc. Donc c'est quelque chose d'essentiel, mais le point quand même important, c'est que ça ne suffit pas, parce qu'encore une fois, ce qui se passe dans la sexualité est le reflet des inégalités sociales qui perdurent dans les autres sphères sociales. Et j'ai envie de dire, peut-être de manière un peu caricaturale, que tant qu'il y aura autant d'inégalités entre les femmes et les hommes, dans les postes professionnels, dans les salaires, dans les postes à responsabilité, dans la répartition des tâches domestiques, on aura toujours des violences dans la sphère de la sexualité. C'est pas parce que la porte se ferme qu'on est dans le domaine de l'intime. C'est de longue date connu, c'est quelque chose d'éminemment social et politique. Donc il faudrait pas se dédouaner de tous les changements qui sont importants dans les autres sphères sociales pour dire juste, ben voilà, on va apprendre aux gens à dire oui ou non et le problème va être réglé.
Merci beaucoup Nathalie Bajos, merci d'avoir été avec nous pour ce podcast.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes sociologue, démographe, directrice de recherche à l'INSERM et co-responsable de l'enquête nationale sur les sexualités et la santé sexuelle.
Merci.
Partout, tous les jours, des femmes et des hommes luttent pour l'égalité, la liberté, le respect. Ces luttes sont plurielles et le combat est mondial. Femmes en lutte est un podcast du Monde réalisé en partenariat avec l'Agence française de développement. À retrouver sur toutes les plateformes et sur lemonde.fr.